France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale Rouletabille, troisième et dernière nuit. Oui, cette nuit sera la dernière, la der des der, si vous avez la chance. Je dis bien la chance de n'avoir pas encore lu Le mystère de la chambre jaune. Alors cela peut arriver, c'est étrange, mais c'est ainsi. Ou si vous avez oublié la fin de ce roman de Gaston Leroux, ce qui est encore plus étrange, mais c'est pour bientôt. Vous allez passer une nuit blanche, car vous allez pouvoir entendre la fin de ce feuilleton du mystère de la chambre jaune. Donc votre attente sera récompensée. Et par la suite, évidemment, vous lirez le roman, puis Le parfum de la dame en noir, sans lequel manque un éclairage important, bien entendu, puis Rouletabille chez le tsar, Le château noir, Les étranges noces de Rouletabille, Rouletabille chez Krupp, Le crime de Rouletabille, Rouletabille chez les bohémien. Alors au cours des deux premières nuits spéciales consacrées à Rouletabille, nous avons bien sûr étudié la biographie de Gaston Leroux, mort en 1927, vu quelle était la production littéraire et cinématographique qui concernait les aventures extraordinaires de Joseph Rouletabille. Et en compagnie de Patrick Leroux, petit-fils de son grand-père, nous avons évoqué l'organisation du travail, l'importance de ce personnage, Rouletabille, même s'il est loin d'être l'unique créature de Leroux. Et puis nous avons reçu aussi Guillaume Faux, qui est venu nous parler du manuscrit déposé à la BNF, le manuscrit du mystère de la chambre jaune. Et Michel Beignet nous a parlé de la maison du roman populaire à Les Roses, en région parisienne. Alors, Rouletabille, des aventures de Rouletabille, il y en a eu après la mort de Gaston Leroux. On a pu avoir un Rouletabille aviateur, par exemple. Et puis, on se plaît à imaginer aujourd'hui, en 2015, qui pourrait écrire finalement de nouvelles aventures de Rouletabille, parce que le personnage appartient à qui ? Ben, il appartient à ses lecteurs, comme d'autres, comme Arsène Lupin. C'est pour ça que André-Paul Duchâteau, j'ai eu envie de commencer cette troisième nuit Rouletabille avec vous, parce que vous avez aussi créé un personnage, vous en avez créé beaucoup, mais vous avez créé un personnage formidable, un reporter aussi, un détective plutôt que journaliste finalement. Il passe plus de temps à être détective qu'à être reporter, c'est Ricochet. Bonsoir André-Paul Duchâteau.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Très bien, et vous-même, c'est une joie de vous entendre. Vous êtes en duplex de Bruxelles, il faut dire.
Absolument,
on ne se voit
avec
pas.
Grand plaisir.
On
s'entend.
On s'entend. Alors, on s'entend et vous allez du coup nous dire, André-Paul Duchâteau, avant que l'on parle de la nouvelle aventure de Ricochet, ça c'est une aventure éditoriale et de bande dessinée intéressante, on en parlera, ça s'appelle R.I.P. Rick, R.I.P. comprendre Requiescat in pace, mais enfin ça se termine mieux que on peut le croire, avec ses initiales. Avant de parler donc de cette nouvelle aventure de Ricochet, j'aimerais que vous nous racontiez votre Rouletabille, parce que vous avez dû lire beaucoup de ce genre de romans, enfant, adolescent.
Absolument, j'étais vraiment passionné. Gaston Leroux m'a passionné immédiatement. En fait, je crois que je vais avoir commencé par Le parfum de la dame en noir. Ce qui était assez curieux d'ailleurs, parce qu'on généralement commence par Le mystère de la chambre jaune. Et j'étais passionné immédiatement par l'atmosphère et les fameuses phrases en italique. Ces phrases extraordinaires, n'est-ce pas, qui étaient chaque fois comme un coup de cymbale qui était donné, n'est-ce pas, et qui annonçait le mystère. J'étais passionné et j'ai eu surtout le grand plaisir, en devenant un peu plus adulte, de pouvoir faire dans la bande dessinée des adaptations de Gaston Leroux, notamment Oui, Rouletabille, dont un inédit.
Ah, lequel ?
C'est-à-dire que j'ai inventé. Je me suis permis d'inventer, après Le fantôme de l'opéra, un album qui s'appelait Le trésor du fantôme de l'opéra.
Alors, quel est ce trésor ?
Et ce trésor, c'est un trésor qui est caché, vous savez, dans le fameux lac qui est dissimulé en dessous de l'opéra.
Avec les cylindres.
Ça m'avait fasciné. C'était fasciné. Fascinant. C'était extraordinaire. Et j'ai gardé vraiment cet amour intact. Et je vais vous faire une confidence. J'ai écrit un roman qui se passe à Bruxelles et qui est part d'une histoire vraie, mais qui est tout de même, justement, prend certaines libertés avec les personnages. Et c'est Gaston Leroux qui mène l'enquête. C'est un roman parce que Gaston Leroux était à ce moment-là, à l'époque où ça se passe, fin du 19e siècle. Ça se passe lors du bal de la cour, le bal de la comtesse de Flandre. Et il y a un vol gigantesque de bijoux qui s'accomplit à ce moment-là. Et j'imagine que c'est Gaston Leroux qui assiste à cet événement, déguisé d'ailleurs en serveur, qui mène l'enquête, qui pour arriver, pour aboutir à la solution, qui est réelle d'ailleurs, que c'était un célèbre commissaire, très connu à Bruxelles, et très bruxellois d'ailleurs par l'accent et par d'autres détails, et qui était en même temps, comme Arsène Lupin, un chef de bande.
Quel est le titre de ce roman, André-Paul Duchâteau ?
Le crime de l'arbre béni.
Vous avez écrit tellement de romans, tellement de scénarios finalement, parce que si j'ai bien compris, et si je me souviens bien de ce que vous m'aviez dit il y a quelques années pour une autre émission, André-Paul Duchâteau, vous avez écrit votre premier roman, et encore l'écrire c'est pas grand-chose, mais vous l'avez publié vers 15 ans ?
Oui, j'avais 15 ans et demi quand je l'ai écrit.
Et publié ?
Et publié parce que Stanislas André Steman, le fameux auteur de 6 hommes morts et d'Assassin Bite 21, avait créé une collection qui s'appelait Le Jury. Et à cet âge-là, quand je l'ai contacté, je crois que j'avais 15 ans et demi, je lui ai proposé un roman qui se passerait dans l'Athénée où je faisais mes études. Et alors j'ai écrit un roman policier qui s'appelle Meurtre pour meurtre et qui mettait en scène tous mes profs. C'était une véritable revanche que l'élève du château prenait sur ses profs.
Vous les avez tous tués ?
C'était passionnant.
Tous sont morts.
Pas tous, non. Mais j'étais en bon chemin, en tout cas, pour faire un carnage. Mais ça s'est bien passé. Et le livre a été bien accepté par l'éditeur, qui était très important. Et puis, il a été bien accepté par le public aussi. Et il a même été bien accepté aussi par mes profs, qui se sont montrés extrêmement sport, parce qu'ils étaient caricaturés sur leur surnom. Et vraiment, ils ont pris la chose avec beaucoup d'humour.
Vous avez commencé très jeune une carrière magnifique, André-Paul Duchâteau, quand même. Parce que quand on publie il y a 15 ans et demi, 16 ans, qu'on en publie d'autres par la suite, que l'on devient ensuite scénariste des aventures, entre autres, de Ricochet, dans le journal Tintin.
Absolument. Mais écoutez, Ricochet, pour moi, c'est une longue histoire. Hein, c'est une longue histoire d'amour avec Ricochet. Hein, parce qu'en fait, j'ai collaboré avec Thibet pendant près de 55 ans. Et vraiment, nous étions trois, en fait. Dans nos préoccupations, il y avait Thibet, il y avait moi, mais il y avait aussi toujours Ricochet. Et nous parlions de lui comme s'il était un ami. D'ailleurs, en fait, nous sommes peut-être les rares auteurs de bandes dessinées qui ont fait de Ricochet un personnage réel. Au cours de ces enquêtes, on voit notamment à Angoulême, Ricochet interviewant, comme il est journaliste, interviewant
ces deux auteurs.
Thibet, Duchâteau. Voilà, exactement. Ça s'appelait...
Meurtre en BD.
Oui, c'est ça, exactement.
Oui, oui. Alors, dites-moi, André-Paul Duchâteau, Rouletabille, oui. Ricochet, il y a quand même, comme ça, ces deux noms qui se ressemblent un petit peu. Est-ce que vous avez pensé, quand vous avez créé ce personnage de Ricochet, est-ce que vous avez pensé à vos lectures d'enfants ou d'adolescents de Rouletabille?
Oui, absolument. Mais je vais vous dire tout, parce que c'est Thibet qui avait créé Chic Bill, qui était une histoire humoristique. Quand il m'a dit qu'il avait trouvé le nom pour le prochain héros qu'on devait justement traiter ensemble, et qu'il m'a dit Ricochet, je n'ai pas aimé immédiatement, parce que ça me paraissait enlever un peu de sérieux à l'enquête. Et alors il m'a dit une chose extrêmement juste, d'ailleurs il m'a dit « Et Rouletabille alors ?» Et c'est vrai, donc, je me suis habitué à Ricochet, et tellement que pour moi, je ne pense pas qu'il aurait pu s'appeler autrement.
Mais alors, Ricochet aussi, alors ne disons plus rien sur Rouletabille, sur l'histoire de Rouletabille, parce que vous avez lu d'abord Le parfum de la dame en noir, puis Le mystère de la chambre jaune, donc vous savez trop de choses, André-Paul Duchâteau. Donc voilà, Ricochet aussi, lui, a des histoires de famille. Elles se sont développées
Absolument.
Au fur et à mesure des albums.
Mais tout à fait, c'est ainsi, justement, qu'un jour, il retrouve son père. Et alors nous sommes amusés à imaginer que le père était vraiment quelqu'un de tout à fait différent de Ricochet. C'était pas du tout un policier, au contraire, mais c'était un gentleman cambrioleur. Donc en fait, ils étaient des adversaires désignés. Mais en réalité, tout se passe bien, comme le savent les lecteurs de Ricochet. Et en fait, Richard, puisque c'est son prénom, est devenu le principal allié de Ricochet. Et ensemble, ils ont résolu beaucoup d'énigmes.
Mais comment s'appelle-t-il, ce père? Il s'appelle Richard Hochet, non? Il n'a pas de nom de famille.
Il s'appelle Richard.
Hochet.
Richard Hochet.
Oui, Richard Hochet, oui. C'est moins joli quand même. On l'appelle toujours Richard.
C'est moins joli.
Oui. Il y a une
mais
y a
on
une
l'appelle
mère,
toujours Richard.
Il y a une mère aussi mais qui va apparaître.
Il y a une mère, mais on a attendu très longtemps pour la faire arriver, par survenir. Au fond, Ricochet la retrouve très très tard, et c'est dans un des derniers albums qu'a dessiné Ricochet que la mère apparaît.
Qu'a dessiné Ricochet, avez-vous dit? Vous vouliez dire Tibet, mais c'est pareil,
oui,
Tibet, pardon, Ricochet, c'est la...
Oui, oui, mais oui, vous voyez, je confonds, tout le monde se confond, c'est une grande famille, Tibet c'est Ricochet, Ricochet c'est Tibet du château, voilà. Donc c'est comme ça que les choses se faisaient, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs.
Alors à la mort de Tibet, vous avez décidé, André-Paul Duchâteau, que eh bien, Ricochet n'existerait plus, qu'il n'y aurait plus de nouvelles aventures, qu'on était arrêté quoi, à la 78e, 80e à peu près, 80e album? Pas tout à fait.
C'était la 78.
78.
78 et le 78e a paru inachevé d'ailleurs.
Oui.
Et à ce moment-là, en effet, on avait décidé de ne plus continuer.
Et
moi, je pense... Pourquoi? Mais il y a des raisons personnelles aussi. C'est-à-dire que je pense qu'après avoir fait 78 histoires, peut-être une certaine lassitude pouvait survenir. Et je crois que malgré tout, il y a pour chaque scénariste un certain temps et un certain nombre d'épisodes ou de personnages qui ne doivent pas trop se bousculer. Donc j'avais trouvé tout de même pas mal d'intrigues. Et il me semblait que, surtout après 5 ans, puisque 5 ans sont passés avant que le nouveau Ricochet ne reparaisse, je pensais que c'était un petit peu difficile. J'ai eu un petit peu peur, comme on dit en sport, au match de trop. Et voilà, je suis enchanté d'ailleurs que ce soit Zidrou qui maintenant ait repris Ricochet, parce qu'il l'a fait avec énormément d'humour et aussi en apportant quelque chose qui est tout particulier à lui. Il y a à la fois le suspense, mais il y a aussi l'humour. C'est une parodie parfois, c'est un témoignage chaleureux. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé son scénario.
Parce que donc, vous aviez décidé d'arrêter, vous aviez... Le genre, le style, la patte André-Paul Duchâteau, c'est vraiment, c'est ce qui a fait le bonheur des lecteurs du journal Tintin quand c'était publié page par page, ou peut-être deux pages par semaine, mais encore pas sûr.
Deux pages, oui.
Deux pages. Mais enfin, il fallait attendre quand même 6 mois pour avoir toute une histoire, quoi. Parce que c'était toujours à la dernière page, peut-être un tout petit peu à l'avant-dernière, on commençait vaguement à comprendre que ce personnage si sympathique était un méchant en fait, mais ça jouait toujours sur le suspense, le rebondissement et voilà, parmi les trois suspects qui est le criminel, ben c'est le quatrième parfois.
Oui, absolument, c'était du roman classique évidemment, hein. Et je crois que de là il fallait se dégager un peu et créer une autre atmosphère, ce que Zidrou, à mon avis, a parfaitement réussi.
Oui, mais vous-même, André-Paul Duchâteau, vous-même, vous avez renouvelé le genre, parce que Ricochet, lui, il est toujours habillé avec les mêmes vestes, voilà, les mêmes pantalons, il y en a une quinzaine dans sa penderie, d'ailleurs, de vestes, comme ça.
Oui, exactement, vous vous souvenez de ce gag. Hein.
Oui, oui, et puis une dizaine de Porsche aussi, j'imagine, parce qu'il les casse assez souvent. Tes voitures.
Exactement, oui.
Mais vous-même, vous étiez quand même, vous aviez renouvelé, sinon vous n'aviez pas renouvelé un système littéraire qui marchait très bien, puis c'est ce qu'on attend dans Ricochet justement, c'est ce suspense-là. Mais il s'est modernisé dans la mesure où voilà, ben il a évolué avec son temps, que ce soit à Paris ou en Belgique, il est toujours à la pointe du progrès avec Internet, avec tout, voilà, enfin il n'est pas resté dans les années 50-60, Ricochet.
Ah non, on suivait très près l'actualité. Hein. Ça, c'était important de toute manière. Et puis, j'ai remarqué une chose, c'est que les albums de Ricochet qui ont eu le plus de succès sont ceux qui étaient de faux romans fantastiques. Parce qu'en fait, quand nous avons publié les Spectres de la nuit, quand Yves m'a parlé d'une possibilité, il m'avait dit « Mais écoute, moi, j'aimerais bien que tu puisses me faire un scénario » où tout est inexplicable, tout est fantastique, et puis à la dernière page, tout devient cartésien, tout devient très logique. Et c'est ce que j'ai fait dans les Spectres de la nuit, et que j'ai recommencé alors dans d'autres albums, en utilisant d'autres clés du fantastique, comme la bilocation, comme pas mal de trucs chers au fantastique, mais avec chaque fois une fin logique.
Mais en tout cas, dans la veine de Gaston Leroux, enfin, des Rouletabille, c'est aussi ce qui fait le plaisir, parce qu'on ne comprend pas du tout, et voilà, et les auditeurs en cette nuit ne comprennent rien encore au mystère de la chambre jaune, et tant mieux s'ils ne l'ont pas lu. Tout s'explique justement par le bon bout de la raison, et Ricochet, il fait travailler aussi le bon bout de sa raison, comme ça.
Oui, les petites cellules grises dont Hercule Poirot parlait après. Hein.
Il est plus physique que Rouletabille, votre Ricochet, parce qu'il se bat, il monte sur les arbres, sur les immeubles, enfin... Il est plus casse-cou.
Il est très sportif et il ne se double pas.
Hein. On a compris donc, en vous écoutant, André-Paul Duchâteau, que cet album qui est paru au printemps dernier met en scène un Ricochet qui vous a échappé en quelque sorte, en tout cas dont vous n'êtes pas l'auteur du scénario. Il y a un nouveau scénariste, il y a un nouveau dessinateur. Et alors, étrangement, ils ont choisi, à moins que ce soit vous qui ayez choisi, qui leur ayez demandé
non,
cela.
Non, c'est le scénariste.
Oui, le scénariste a eu tous les droits, et il a placé cette histoire en 1968.
Ça, on en avait parlé, parce que c'est une époque qui convient bien à Ricochet, et il est de tous les temps, bien entendu, mais les meilleurs albums, peut-être, se situent à cette époque-là. Donc c'est une décision qu'on avait prise. Est-ce qu'elle est bonne? Je ne sais pas, mais en tout cas, il l'a respectée. Et il m'a fait l'immense plaisir aussi de reprendre le personnage de Caméléon, qui est un des méchants les plus connus de la saga Ricochet.
Sauf qu'il n'a pas vraiment le visage de Caméléon. Enfin, le Caméléon a tout le visage, sans doute, mais bon.
Exactement. C'est très juste, oui.
Vos lecteurs le savent. Alors, donc, on fait revenir des personnages comme ça, parce qu'après, le scénariste, il s'amuse en effet avec les codes d'André-Paul Duchâteau et de Tibet. Il fait réapparaître le petit frère de Nadine, je crois, qui est la fiancée, l'éternelle fiancée de Ricochet. Encore que cette Nadine, il va lui arriver des choses que Ricochet ne saura peut-être jamais de sa vie.
C'est possible. Là, on voit d'autres manières de communiquer, si l'on peut dire.
C'est terrible ce qui arrive.
Autre climat. Hein.
Mais ça, vous l'avez voulu vous-même.
Oui, c'était vraiment une volonté de changement et d'évolution. Au fond, durant les 5 ans où il n'y avait pas eu d'album de Ricochet, il y a eu une révolution qui s'est passée. Cette révolution s'est passée notamment dans le monde de l'édition, et notamment dans le monde de la BD. Beaucoup de jeunes, au fond, ont demandé autre chose, ont cherché autre chose. Donc il y a eu un très grand changement, et il fallait s'adresser, je pense aussi, à un nouveau public également. Je crois que c'est ce qu'a très bien compris le nouveau scénariste, justement.
Oui, est-ce qu'il vous avait fait lire le scénario avant de... Enfin, comme un droit, en fait, moral?
Ah oui, absolument. Oui, mais justement, moi, je lui avais écrit d'ailleurs quelques mots enthousiastes quand il avait envoyé ce qu'était la synopsis à ce moment-là. Et puis quand il m'a envoyé tout son découpage, j'ai trouvé que c'était amusant, que ça rebondissait bien, que c'était dans la tradition de Ricochet, et en même temps que c'était plus adulte et que ça apportait un son nouveau.
Et on apprend, alors, mais est-ce que ma connaissance des albums de Ricochet, que je croyais aussi bonne que ma connaissance des romans de Rouletabille, est-ce que je me serais trompé? Mais il est question du commissaire qui se remarie.
Là, c'est vraiment un gag, qui m'a surpris, oui, tout à fait, d'ailleurs.
Mais parce qu'il se marie, c'est son droit, mais je ne me souviens pas dans aucun album qu'il ait été marié.
Non, c'est exact. Alors, on n'a jamais fait allusion, en tout cas. Alors, on ne le sait pas, on ne connaît pas grand-chose dans les albums de la vie privée de Bourdon.
Oui, alors donc on apprend en 2015 que Bourdon a été marié, puisqu'il se remarie en 68, ça, on joue sur le temps comme ça. Et puis on apprend des choses aussi sur son passé.
Oui, absolument. Ben oui, c'est vraiment des choses intéressantes, tout de même, ce sont des révélations qui ont été faites au créateur lui-même.
Hein. Vous avez découvert.
Au créateur lui-même, c'est-à-dire... Oui, j'ai découvert avec beaucoup de joie, beaucoup d'amusement, ce qui avait été inventé.
Mais quand même, parce que dire que Bourdon a eu un passé pendant l'occupation qui n'est pas vraiment formidable, ça, vous avez accepté ça, vous, André-Paul Duchâteau?
Ben écoutez, oui, ça m'a un peu étonné. Mais d'un autre côté, je trouvais qu'il avait le droit d'imaginer cela, évidemment. Hein. Il voyait ça sous un autre angle, bien entendu. Hein.
C'est formidable, parce que alors, André-Paul Duchâteau, je trouve que vous êtes vraiment quelqu'un qui vous donne la grande liberté, comme ça, au scénariste. Bourdon peut avoir été collabo en 10 ans, puisqu'on le sait assez vite. Ça nous déçoit un petit peu quand même, nous, les lecteurs, non ?
Ben, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas encore connu la réaction des lecteurs. Mais j'en parlerai de toute manière au scénariste, parce que peut-être a-t-il une autre version en poche, hein. Il a peut-être quelque chose qu'il cache dans ses poches pour le deuxième album qui suivra. Hein.
C'est ça. Alors, vous vivez quelque chose, André-Paul Duchâteau, que personne n'a dû vivre avant vous. C'est-à-dire que vos créatures, Ricochet, sa fiancée Nadine, son ami le commissaire Bourdon, et puis ses ennemis Caméléon et autres, vivent des aventures et vous les découvrez. Alors ça, c'est pour un scénariste, c'est incroyable.
Oui, c'est un petit peu un cauchemar. Hein. C'est un rêve en même temps. Hein. Mais au fond, ils ont parfaitement le droit, ces personnages, de vivre leur nouvelle vie. On ne sait pas exactement quelle était leur vie, au fond.
Vous passez le flambeau, finalement, pour en apprendre plus, quoi.
Oui, voilà, exactement. Moi aussi, vous savez, j'adore qu'on me pose des énigmes. Hein. J'aime bien les résoudre. Ricochet aussi, mais j'aime bien qu'on me tienne en haleine. Alors je suis tenu en haleine et je vais voir ce que notre ami va trouver pour la suite des aventures de Ricochet.
Et vous n'aimeriez pas écrire une suite aux aventures extraordinaires de Joseph Rouletabille, André-Paul Duchâteau ?
Si, beaucoup, beaucoup. J'en ai fait 8, hein, comme je vous le disais, avec Bernard oui. Suissen. C'était un bonheur de travailler avec lui.
Ça pour la bande dessinée, mais pour un roman ?
Pour un roman. Mais écoutez, j'ai fait un début avec ce livre que j'ai écrit qui s'appelle « Le crime de l'arbre béni » et qui se passe à Bruxelles. Je suis parti de faits vrais, mais j'ai pris certaines libertés également. Donc je suis très tenté de pouvoir employer éventuellement Rouletabille dans une œuvre prochaine.
Alors que fera-t-il ?
Ça m'intéresserait beaucoup.
Oui, alors que fera-t-il, Rouletabille ?
Ah, je ne sais pas.
Vous aimeriez situer le roman de nos jours ou en 1907, 8, 10, 15, 20, 30 ?
Ça me paraît difficile de le situer de nos jours. Hein. Mais il faut y réfléchir. Ça, c'est vraiment intéressant comme question, je pense.
Bon, bah, vous avez toute la nuit pour y réfléchir, alors, André-Paul Duchâteau. Vous allez certainement suivre avec nous le feuilleton qui va se terminer cette nuit, le mystère de la chambre jaune. Vous vous souvenez de tout ?
Presque tout, mais évidemment...
Ne dites rien, bien
adapté,
sûr.
Hein, oui. Non, je ne dis rien du tout, parce que c'est un des chefs-d'œuvre de la chambre close.
Alors, en tout cas, on va poursuivre cette nuit spéciale Rouletabille, la troisième, et on en saura plus sur le crime du Glandy. Il y a une chose qui m'a amusé dans le feuilleton là, que l'on va entendre, un des deux feuilletons qu'on va entendre bientôt, c'est que le père Jacques parle du chemin des dames. Alors, c'est étonnant, il a fait la guerre de 14-18, apparemment, et le roman se passe en 1900...
Ah,
enfin,
oui.
Au 19e siècle, d'ailleurs, il est écrit en 1907 ou 8, mais bon, c'est une petite bizarrerie de l'adaptation. Ricochet, en
oui,
tout cas.
C'est bizarre.
Écoutez. Ricochet par Van Limt et Zidrou, d'après Thibet et Duchâteau. Le premier tome est paru donc au printemps dernier aux éditions du Lombard, R.I.P. Ric. Et puis le deuxième tome s'appellera.
Mais je ne sais pas encore quel est le titre. Je crois que ce serait Le meurtre dans un jardin français.
Voilà. Bon. Eh ben, on en saura plus l'année prochaine alors.
Oui, on en saura davantage. Écoutez, c'est intéressant tout de même d'avoir un mystère à résoudre et d'avoir une période d'attente aussi, hein, suite au prochain numéro.
Et puis André-Paul Duchâteau, notez aussi que nous allons recevoir l'un de vos compatriotes plus tard dans la nuit, Jean-Pierre Bourse, belge comme vous. Il travaille actuellement une nouvelle biographie de Gaston Leroux. Ce sera après quelques épisodes du feuilleton et après un documentaire de la Fabrique de l'Histoire signé Anaïs Quien. Récital en sous-sol, les voix ensevelies de l'Opéra de Paris. Merci André-Paul Duchâteau.
Merci infiniment, hein. Merci Monsieur Garbi.
À bientôt.
À bientôt.
but return to find the land we lost. Reckon was over by Ramat for reaching ground.
Gentlemen.
Rehearsals, as you can see, are underway for a new production of Chalamet's Hannibal.
Monsieur Lefebvre, I am rehearsing.
Monsieur Rouet, Madame Curie, ladies and gentlemen, please, if I could have your attention, thank you. As you know, for some weeks there have been rumours of my imminent retirement. I can now tell you that these were all true, and it is my pleasure to introduce you to the two gentlemen who now own the Opera Populaire, Monsieur Richard Firmin and Monsieur Gilles André.
And we are deeply honoured to introduce our new patron,
the Vicomte de Chagny.
My parents and I are honored to support all the arts, especially the world-renowned Opera Populaire.
Vicomte, gentlemen, Signora Carlotta Giudicelli, our leading soprano for five seasons
brava,
now.
Brava!
Signora Ballo Piangi.
And honor, Signor, I believe I'm keeping you from your rehearsal. I will be here this evening to share your great triumph. My apologies, Monsieur.
Thank you, Monsieur le Vicomte. Once more, if you please, Signor.
Love me. We take particular pride in the excellence of our ballet, Monsieur.
I see why. Especially the little blonde angel.
My daughter, Meg Giry.
And that exceptional beauty. No relation, I trust.
Christine Daillé. Promising talent, Monsieur Firmin. Very promising.